to breathe for you.
Next week, same time. This is all about Pansiva. Keep your land at 13 FM.
Looking for an IT coordinator. This is a part-time, permanent position at 20 to 25 hours a week. The IT coordinator is responsible for managing the station's IT systems, providing technical support to staff and volunteers, and contributing to the station's collective management. The IT coordinator envisions how the station can streamline its operations within the parameters of station budgeting and available technologies. The IT coordinator is also a member of CKUT's steering committee, a non-hierarchical collective management group responsible for the overall direction of the station. We are looking for someone who is able to work collaboratively in a team and learn new skills, has strong troubleshooting and problem-solving skills, and has knowledge of various tech systems and protocols. For more job details, including wage, benefits, and accessibility, see the full job posting at ckut.ca or check out our social media. The cutoff for applications is Monday, February 20th.
There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize
consciousness is affected?
There is this thing on. There is this thing going on.
What
do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing going on.
What is called
the news brought to you live.
Welcome to another edition of Labor Radio here on CKUT 90.3 FM. You can hear us every third Thursday of the month from 5 to 6 p.m. And also online at ckut.ca and also via our Facebook page at Labor Radio, our Mixcloud, and on the Labor Radio Podcast Network. I am your co-host, Stefan, always with...
Me, the other co-host, Mustafa Hathaway, who's got a bit of a raspy voice this month, but...
A sexy raspy voice, you might say.
Thank you.
Big interview this month conducted by Mustafa without myself. Do you want to introduce the interview and then we'll maybe do a little bit of labor briefs?
So maybe people have been watching, people have not. There's been historic mobilizations in France over the last month, in January and also February 7th, 8th, and 9th, over Macron's attack on the pension regime in France. And it was a united front of all the trade unions that went on strike, you know, leading to over a million workers taking to the streets. So we were able to interview Sylvain Allies, who is responsible for international solidarity with the progressive trade union in France, Solidaire. So it was really good. And he went through the whole history of the attacks on the pension regime, how it ties to the broader social security schemes in France, and how it relates to also non-unionized workers. So it was a really good interview.
Right on. So you'll hear that later on in the show. A little tie-in with our own situation here in Quebec is the... it was clear that the government in Quebec was sort of testing the waters about making eligibility to the RRQ, the Régime des Rentes du Québec, the public pension in Quebec, to make that eligible not from 60 years of age, but from 62 years of age. So very similar in certain ways. It's basically similar in the way that it's a rollback on the right to retirement. So lots of reactions to this, obviously, in Quebec. It's not an actual proposal right now. It's just been, like I said, they're testing the waters, and the waters are pretty choppy for them in that regard, I would say. It's been pretty unanimously condemned by labor and opposition and whatever. Something to watch.
No, obviously, if they're saying it, that it's obviously on the radar to see how far they could probably go within this term. So,
yeah, they have a crushing majority in Parliament or at the National Assembly, so they could obviously ram it through like they have so much legislation over the past 4 years. But just to break it down for people, because you often don't really see the way that this works discussed in the coverage of it. You just sort of see people saying whether they're for it or against it, whether they think we can afford it or not. And I mean, regular listeners to the show will know that we interviewed, what was his name, James... something or other, author of a book about pensions for union organizers. And one of the things that he talks about is the access to early retirement and the way that basically these pension funds, they just have to make an adjustment in the calculation. And that's what happens in Quebec when you opt for early retirement, which is the case mostly for people who have really difficult physical jobs that they can't really keep doing into their 60s, but like particularly construction workers, road workers, people in heavy industry and so on. So those people who like can't really keep doing that work into their 60s, they take an early retirement, but it means that their amount that they get is lesser. It's all part of the scheme. And I think what's important to know in this regard is that it's not that Quebec's pension system can't afford to keep doing this, is that they want people to be forced to work longer. That's all it is. They'll say all kinds of things about it. It's not true. It's very clear that the pension system in Quebec is in absolutely fine condition financially, and they've been doing this for a number of years. I don't actually know how long. This is not a threat to the viability, the financial viability of the system. They just want people to work longer. So that's why people are so against it, is because it's a nonsense argument and people don't and can't work longer. And obviously we should be pushing for earlier retirement than 60 for people with harder labor conditions. But we're obviously at the government level talking about rollbacks, not advances. In other news, school bus strikes all over Quebec starting this week. bus drivers like on the South Shore, on the North Shore, in Lanaudière, in Quebec, around Quebec City, all over the place with private companies, mostly CSN, I think, on strike for mostly wage issues. Otherwise, a big sort of strike brewing would be the PSAC strike that is possible with federal government workers across the country. I think it's somewhere around 160,000 workers who are under who are currently bargaining with PSAC or PSAC, whatever you want to call it. And so there's strike votes that are happening now going into April for workers in like a variety of categories, whether it's border services, agricultural and food safety, program services, the people who take care of federal buildings, all kinds of things, basically the gamut of people employed by the federal government. So that could potentially, I think it's unlikely that it will, but it would be one of the biggest strikes in Canadian history. I think the biggest, if all of them were to go on strike. I saw that, but then now I'm thinking, what about the Common Front in Quebec in 1972 and all the other ones since? So maybe that's just an erroneous English-Canadian...
Well, also there was the general strike around price caps in inflation in 74, 76.
True, true.
Against the anti-inflation board.
A relevant strike in these times, to remember.
Yes. Exactly, because for PSAC, the big issue is also cost of living, right? So,
yeah, the federal government was offering them 2% per year, and some of them they've had their contracts were finished at the mid 2021, so they've been a year and a half, almost 2 years without a contract. And so they'd be getting 2% on a year of 8% inflation. So a 6% pay cut for this last year and for however long inflation stays this high, you know? Anyway, yeah. I think other issues is like working from home, remote work or whatever. But obviously wages would be, as it always is, at the top of the list of their demands. But PSAC, not exactly what you might call like a combative union. So I don't know how long it's been since they've had a big strike. I don't remember when was.
I don't remember either.
So it's most likely gonna be resolved without a strike. But this is a part of the bargaining process, especially for a union that doesn't want a strike. They still have to pretend that they want to, so that they can get. some of the things that they want from the table. Anyway, we'll see what happens. Shout outs to all the militant PSAC workers out there.
Yeah. The PSAC is calling for a strike. The era of industrial peace is really over.
Exactly. We talked about Amazon last episode, but there's been some developments since. Do you want to speak on those, Mustafa?
Well, you know, when we spoke to Ibrahim last month, it was the day before the press conference, and the press conference went resoundingly well. David Bergeron-Cyr, vice president of CSN, called Amazon's model essentially the use of wage slaves, really went out to bat on behalf of the workers. And following a few days after Alexandre Leduc from Quebec Solidaire called for an inquiry into Amazon's labor practices. So it seems like there's really momentum gaining around Amazon. as a result of workers actually speaking up. So it's a very interesting moment.
Absolutely, and more stories coming out about the sort of abysmal working conditions in Amazon, whether it's in Quebec or elsewhere. And there was big rulings also in the last month in the US and in Europe, I think.
Yes, over its anti-union practices. And then also in England, there was actually a strike, the first strike in the UK this last month by GMB. So it was, so the strike wave, even at Amazon, is expanding as well.
Yeah, very encouraging. Maybe one last tidbit of news that we wanted to touch on, since we have time, is just to sort of note the moves in Ontario towards greater privatization of healthcare. This is a labor story because obviously the public sector is heavily unionized in the healthcare sector of the public health. So the underfunding of healthcare leading to the crisis, which leads to the calls for privatization. This is the regular privatization playbook, I guess. But in Ontario, I saw some figures that said, you know, it's the least well-funded per capita in terms of health in Canada. And just to get it on the average for Canada, which would place it above other places, obviously, I mean, average. So not the best, but average in Canada, you need to spend $2,000 per person in Ontario, which in the province of 15 million people means $30 billion. $30 billion extra per year to get it to the Canadian average. And those billions of dollars is largely wages. So this is obviously super relevant to the workers in that industry who are seeing their working conditions deteriorate over time, their living conditions due to their wage freezes and wage cuts also degraded. So this privatization is just sort of part of that cycle, I guess, of degradation of the working conditions of healthcare workers in Ontario. And so there's a big fight being sort of brewing around this, but it's just beginning. So I want to shout out healthcare workers and their allies in Ontario right now, because this is going to be pretty big and it's going to have effects all over the place. Like right now, they're tabling legislation in Quebec against the use of private agencies in healthcare, which I have yet to kind of wrap my head around this, because it's not exactly the CAC's regular playbook. They simultaneously talk about privatization while now going against the private sector in terms of labor supply. So it's all a bit confused, and I apologize for not having my sort of thoughts straight on this yet. But anyway, what I'm saying is Ontario obviously has its own problems and they need to struggle there, but that struggle is going to have a big effect on the healthcare sector all across the country. So we all need to watch it.
Yeah, no, and I think it's going to be, with CAC, I mean, they promised this during the pandemic, and I wonder if it's a question of really just being able to directly manage. It's causing more problems than it is, like, in terms of efficiency.
Mm-hmm. Yeah, it's hard to say. I mean, I heard someone on the radio the other day, some nitwit, being like, well, you know, all these nurses that have been working for these staffing companies, When they go back in the public system, the unions are going to try to make sure that they don't get their seniority back if they used to work in the public system, which is an insane thing to say. But this is the kind of thing that's part of the machine, right? Like, they make up crazy things to try to undermine, through this discussion around like the very pernicious role of private labor supply into the public system, they still manage to find a way to attack unions on completely ridiculous charges. And so anyway, it's a very important moment, and obviously it's part of the ongoing public sector negotiations in Quebec will be issues of staffing in hospitals. So anyway, a whole big thing to watch.
Yes.
I guess we should go to the interview.
Yeah. I mean, so enjoy it. It's in French. And, you know, you could always catch us on the web, www.ckut.ca, also our Facebook page, Labor Radio, and as well as on Mixcloud.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Parler d'égalité, et comme des cons les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien.
Oh,
Welcome to this edition of Labor Radio here on CKUT 90.3 FM. And this is your co-host, Mustafa Hanawi. And I am joined by a very special guest and someone who's organizing and union I've respected, and Sylvain Elias from Sud Solidaire, which is a trade union in France, which, if many people in Quebec don't know about, is a union that has really been on the front lines of putting forward a more progressive perspective on trade unionism, or internationalist perspective. Donc, alors, merci beaucoup, Sylvain, aujourd'hui pour les entrevues, pour le Labor Radio, ici à CKUT 90.3 FM, à Montréal. Vous êtes joint nous à Paris. On va parler sur les conjonctures, le lutte ouvrière aujourd'hui en France, particulièrement les grandes manifestations, l'arrêt de travail, les grèves, sur la nouvelle réforme et la loi pour la retraite en France. Merci beaucoup et bienvenue, Sylvain.
Merci.
Alors, c'est la semaine passée, il y a des trois grands jours de manifestation, aussi les grèves en France contre les lois proposées par le gouvernement de Macron sur la question de retrait. Tu peux donner une fenêtre sous les nouvelles lois et pourquoi il y a de la grande résistance maintenant en France contre la loi, la réforme de retrait?
Alors, jusqu'à maintenant, donc, l'âge légal de la retraite était porté à 62 ans, voire même 63 années. Voilà. Et avec également une durée globale d'années de cotisation pour avoir accès à une retraite à taux plein de 43 années. Et là, le gouvernement Macron dit nous allons faire une nouvelle loi qui va porter non pas l'âge légal minimum de date de départ à la retraite de 62 ans, mais à 64 ans, tout en ne bougeant rien du tout concernant les années, les années obligatoires de cotisation pour bénéficier d'un taux de retraite à taux plein, qui est de 43 années. Donc, si on calcule, en fait, 64 ans, donc, d'âge légal de départ, également avec 43 années minimales de cotisation pour obtenir la retraite à taux plein, ça veut dire qu'en fait, l'âge légal de départ à la retraite, il n'est pas en fait de 64 ans pour beaucoup, mais il est en fait, avec ces 43 années d'annuité de cotisation, c'est un âge de départ de 65 ans, 66 ans, 67 ans, voire même plus, et que, également, pour l'instant, dans ce projet de loi, rien n'est dit sur les longues carrières pénibles, également aussi, c'est porté vent debout par les syndicats, cette nouvelle loi qui est présentée comme une loi de justice sociale ne l'est pas du tout. C'est une loi également qui aggrave les inégalités, parce qu'en fait, celles et ceux qui vont devoir travailler jusqu'à 64 ans avec 43 années à taux plein, ce sont celles et ceux qui ont les métiers les moins rémunérés. Tout le monde là-dessus pense également particulièrement aux femmes qui, par leur carrière hachée, qui, par les métiers spécifiques qu'elles exercent, par également, quand on travaille, la plupart des métiers occupés par les femmes, ce sont des métiers de service, souvent à temps partiel, Ben, ça veut dire, oui, automatiquement, des carrières longues avec des salaires très moyens. Et là-dessus, dans ce projet de loi, rien n'est dit sur les carrières longues, sur la pénibilité et sur également ben, quelles cotisations, à quel montant pardon, comment dire, de pension de retraite partiront les salariés une fois qu'ils auront enfin atteint l'âge légal de départ. Et cette situation et ce tableau en fait, de cette nouvelle loi qui est totalement qui renforce les inégalités de salaire, de travail et autres, ben en fait, fait que l'ensemble des syndicats, des plus modérés donc aux plus entre guillemets radicaux, hein, ça va de la CFDT en passant par le syndicat chrétien CFTC, le syndicat des cadres CGC, en passant donc par la CGT, la Grande Confédération historique, la CFDT, donc aujourd'hui syndicat entre guillemets vraiment modéré, jusqu'à l'AFSU, donc, qui est donc le syndicat majoritaire de la fonction publique, notamment dans l'enseignement, avec l'Union syndicale solidaire, qui est donc qui est l'union syndicale interprofessionnelle la plus à gauche dans le paysage, voilà. Et donc, il y a donc l'ensemble des 8 principaux organisations syndicales voilà, françaises appellent aux manifs, aux grèves, et ça, c'est inédit, ça ne s'était pas vu depuis 15 ans.
C'est toujours, expliquer, c'est la 15 ans maintenant, c'est cet appel pour le manifester, pour le contre la réforme, le retrait. So, c'est la loi de Macron, c'est juste le nouveau attempt pour mettre le projet de loi sur le retrait. C'est déjà, c'est tombé ou la résistance contre. Tu peux expliquer, c'est la première fois il y a des projets de loi pour changer le régime de retrait en France. Le résistant tout ça.
D'accord. Alors, ce projet de loi n'est pas le premier. Hein. Il y a eu depuis ou là. Donc, parce que, en fait, partons de 1981. Donc, 1981, élection présidentielle, la gauche arrive au pouvoir. Pour la première fois depuis 1936. Et là, donc, François Mitterrand devient président. Il y a donc un gouvernement qui est mis en place avec, présence notamment de ministres du Parti communiste français, certains, voilà, avec un programme très à gauche. On était vraiment, voilà, ce programme très à gauche de 1980. Prononçait donc le droit à la retraite à partir de 60 ans, à partir pardon, de 60 ans. L'âge légal était porté à 60 ans. Et puis, petit à petit, voilà, il y a eu une lente attaque sur cet acquis. La première attaque a été faite en 1993, quand il a été décidé, là-dessus, c'était bon, le Premier ministre était, je crois, Édouard Balladur, quand il a été décidé que, ben oui, l'âge légal de départ, oui, non, c'est ça. L'âge légal était porté toujours à 60 ans, mais par contre, la durée minimale de cotisation n'était plus de 37,5 ans. Pour le secteur public, pour le secteur privé, pardon. Pour le secteur privé, il était passé à 41 annuités. Ça, c'était en 93, où le gouvernement de droite de l'époque décide en plein mois d'août que pour partir à la retraite à taux plein à 60 ans, les salariés du secteur privé n'auront plus 37 ans et demi de cotisation, mais 40 ans. Ça, c'était une première attaque. On était en 93. La seconde attaque a eu lieu en 95. Et là, il y a eu le mouvement de grève que tout le monde connaît, avec une grève générale notamment portée par les cheminotes et les cheminots. C'était en 95. Et le but du gouvernement de l'époque, hein, Jacques Chirac était président, le but du gouvernement de l'époque était de que le secteur public, qui était resté à 37 ans et demi de cotisation pour une retraite à 60 ans, voilà, rejoigne en fait ce qui avait été décidé 2 ans auparavant pour le secteur privé. En 1995, le gouvernement a perdu et tout le secteur public est resté à 37 ans et demi. Voilà. L'attaque ensuite est arrivée en 2003, où là-dessus, le gouvernement encore de droite de l'époque a de nouveau réattaqué pour faire en sorte que le secteur public rejoigne en année de cotisation le secteur privé, avec l'attaque donc 37 ans et demi de cotisation. Là-dessus, là-dessus, ça a été un combat social qui a été perdu en 2003, et le secteur public voilà, a rejoint là-dessus, en termes de durée de cotisation, le secteur privé. Tout le monde se retrouvait à 40 ans. Et petit à petit, courant des années 2000, il y a eu donc 2003, il y a eu 2006, et ensuite enfin 2010, avec des gouvernements de droite successifs, ont porté des coups de boutoir sur le droit à la retraite, où donc la durée de cotisation n'a été plus de 40 ans, mais de 41 ans, puis on est passé à 42, et enfin à 43 années, c'était 43 années, c'était malheureusement sous un gouvernement de gauche. François Hollande était président. C'était en 2016, voilà, c'était en 2016, où par un cruchement de voilà d'une loi qui touchait le droit à la sécurité sociale, il a été décidé une cotisation de 43 années pour partir à taux plein. Et par contre, l'âge légal restait lui était passé entre-temps, de 60 ans à 62 ans. Et là, donc, l'âge légal était figé à 62 ans. Et Emmanuel Macron, a pris la responsabilité avec son gouvernement de vouloir faire passer donc l'âge légal à 64 ans, avec donc 43 années de cotisation, d'annuité de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein.
Merci beaucoup pour la grande histoire, Sylvain. La question pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de résistance, mais pourquoi est-il si important pour les différents gouvernements successifs pour attaquer le régime de retraite en France? C'est pourquoi c'est vraiment pas juste laisser privatiser autre chose, attaquer les mouvements syndicaux, autre chose, ou changer le marché de travail avec une autre façon? Pourquoi toujours la question de retrait vraiment centrale pour les différents gouvernements en France?
Il faut savoir que donc au niveau de la retraite, il y a la retraite de base qui est donc la retraite de la sécurité sociale, qui est cette grosse énorme caisse hein, auquel cotisent l'ensemble des employeurs et une partie des salariés aussi, dont les cotisations trimestrielles et autres représentent des dizaines de milliards, de milliards et de milliards. Cette caisse de sécurité sociale a été mise en place donc à partir de 1945, où il y a trois régimes, le régime des retraites sécurité sociale, également aussi le régime donc santé qui est dit régime assurance maladie sécurité sociale, et également un troisième régime qui est ce qu'on appelle la branche famille de la sécurité sociale, qui est notamment la gestion de la caisse dite des allocations familiales. Et durant maintenant, on peut dire, les années 80, depuis les années 80, des attaques successives ont été faites par différents gouvernements sur tout ce qui est cotisation, droit et accès aux différentes branches de la sécurité sociale, qui représentent énormément d'argent. Et par exemple, pour ce qui est de l'assurance maladie, d'année en année, on a vu, par exemple, tout ce qui était le droit au remboursement des médicaments, ce droit-là, petit à petit, s'effiloche. Pareil aussi pour le droit de remboursement à la médecine. Petit à petit, il est expliqué aux gens que il va falloir quand même avoir une mutuelle parce que tel et tel acte du médecin seront encore pris en charge, mais de moins en moins, voilà. Ça, c'est pour la partie médecine. Pour tout ce qui est la partie retraite, depuis un certain nombre de décennies, il y a notamment cette instance qui s'appelle le COR, qui veut dire en fait conseil d'orientation des retraites, voilà, qui tire entre guillemets la sonnette d'alarme en disant alerte, alerte concernant la branche retraite de la sécurité sociale ainsi que les autres caisses de retraite, parce qu'il y a donc entre-temps été mise en place donc des caisses de retraite complémentaires comme AGIRC ARCO, qui elles sont des caisses totalement, en plus qui ne souffrent d'aucun déficit, hein. Elles sont pleines d'argent, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'euros, et ce conseil d'orientation des retraites sonne la sonnette d'alarme souvent en disant attention, attention, selon nos projections et nos prévisions, arrivé 2050, 2060, 2070, il n'y aura en gros plus assez de sous pour contribuer aux retraites de tout le monde. Sauf que ça, ce sont uniquement des projections. Sur beaucoup d'économistes, notamment de gauche, disent que ces projections ultra pessimistes, on est sûr de rien. Et que quand bien même il y aurait menace sur les fonds, sur les fonds et de malheureusement et qu'il y aurait des difficultés et qu'on pourrait envisager des difficultés pour payer les retraites futures, il peut exister également plein de mécanismes pour permettre à ce que ces fonds soient un peu mieux entre guillemets fournis, notamment, et là-dessus le patronat est vent debout, c'est quand des économistes on pourrait augmenter le taux de cotisation notamment du patronat. Et là-dessus, le patronat ne veut pas entendre parler. Et donc, jusqu'à maintenant, depuis les années 80, les solutions qui sont trouvées, c'est de demander finalement à celles et ceux qui travaillent de cotiser plus et de travailler plus longtemps, sans qu'aucune autre alternative ne soit envisagée. Hausse des cotisations, partage réel du temps de travail. Par exemple, au niveau de Solidaire, mais aussi la CGT, on est deux organisations syndicales à présenter, d'ailleurs depuis l'après-Covid, mais on présentait ça depuis bien avant, en disant, d'accord, avec la fin des années 90, on a été mis en place en France les 35 heures, il serait peut-être temps maintenant de passer aux 32 heures, afin de mieux partager le temps de travail, et qui dit partage le temps de travail, également aussi baisse de chômage, création de postes, et pour Solidaire, il est totalement envisageable de pouvoir créer des postes sans d'ailleurs retrait de salaire, un SMIC plein, et ce que tout le monde puisse travailler 32 heures. Et ça, là-dessus, aucun gouvernement ne veut en entendre parler, le patronat encore moins, Et c'est ce qui explique que, ben oui, il y a toujours donc cette solution qui est présentée par les gouvernements successifs, en tout cas, qui disent, entre guillemets, réformer la sécurité sociale, qui est de demander de payer plus et de payer plus aux salariés.
Et pour toi, Sylvain, c'est la mobilisation, c'est pour toi historique ou inspirant, ou quel moment dans le dernier mois pour toi c'est vraiment inspirant, c'est pour le futur, pour le mouvement syndical en France? Et ensuite, peut-être une dernière question, c'est parce que cette mobilisation, c'est vraiment focus sur la question de l'électricité ou aussi le contexte plus général, l'inflation, les crises en Europe, aussi aider avec la mobilisation.
Concernant les chiffres des mobilisations, si on voit le 19 janvier et le 31 janvier, par exemple, sur 15 jours de suite, il y a eu 2 millions de personnes qui se sont rassemblées dans les rues. Et quand il y a 2 millions de personnes dans les rues, c'est sûr que là, on est sur des mobilisations très fortes où, en fait, les cortèges syndicaux sont de fait, entre guillemets, ça déborde. Et c'est là où on voit plein de jeunesse, plein de salariés, hommes, femmes, collectifs et autres, qui rentrent dans les manifs et qui jusqu'à maintenant, n'étaient pas traditionnellement tout le temps présents lors des dernières journées, lors des précédents mouvements où il y a eu où des syndicats appelaient à la mobilisation. Et là-dessus, il est clair que le fait que les 8 organisations syndicales appellent toutes ensemble à ces journées-là, bien sûr, ça fait automatiquement effet d'un appel large et qui encourage à la mobilisation. Là-dessus, moi, quand on discute en tractant dans les gares aux salariés, il m'est arrivé de discuter avec des salariés qui me disaient « Ben oui, si moi je vais à la manif aussi, c'est parce que vous êtes tous unis ». Cette unité, pour beaucoup de salariés, est quelque chose qui compte. Après, c'est vrai qu'il y a toujours ce paradoxe français, qu'on peut dire, par rapport aux autres syndicats en Europe, c'est que le taux de syndicalisation, en fait, français, fait partie des plus bas d'Europe. On est grosso modo entre public et secteur public et secteur privé confondus. On est autour, je crois, de 8, 9, voire peut-être 10, pas plus, de salariés syndiqués. Si on compare, par exemple, au taux de, si on compare, par exemple, le nombre de syndiqués, par exemple, du Trade Union Congress anglais ou du DGB en Allemagne, c'est des millions et des millions de militants, de cotisants, et d'adhérents. Le plus gros syndicat aujourd'hui, les plus gros syndicats français aujourd'hui, qui sont la CGT et la CFDT, tout au plus, c'est 600 000, 700 000 adhérents. Si on compare au Trade Union Congress, même la CFDT elle-même est un petit syndicat comparé. Et c'est vrai qu'il y a ce paradoxe qui peut être vu aussi, qui peut paraître bizarre en disant, mais comment ces syndicats qui sont finalement, en termes de nombre de cotisants, de nombre de militants syndicaux et autres, pas si nombreux que ça, finalement, lorsqu'il y a des appels à mobilisation, ils arrivent à pouvoir mobiliser des millions de gens dans la rue qui, eux, majoritairement, ne sont pas syndiqués et n'entrent pas vraiment en contact avec les syndicats. Et c'est vrai que là-dessus, l'attaque sociale est tellement forte que, en fait, ce gouvernement, oui, avec cet âge de la retraite qui est donc de 64 ans, s'attaque à l'ensemble en fait du salariat. Et finalement, c'est l'ensemble du salariat qui se retrouve concerné, et même les générations futures. Le nombre de jeunes dans les manifs aujourd'hui, on n'avait pas vu ça depuis les mouvements de 2006, par exemple, contre le CPE.
Merci beaucoup, Sylvain. Il y a d'autres choses pour ajouter ou...
Oui, on peut ajouter autre chose. C'est que jusqu'à maintenant, donc, les journées de grève reconductibles, on voyait que c'était un peu compliqué à mettre en place. Les débats syndicaux là-dessus étaient un peu compliqués. Notamment, bon, les secteurs traditionnels, c'est vrai, qui appellent à la reconductible au niveau français sont souvent les travailleuses et travailleurs des secteurs des transports. Et là, après débat parmi les militantes et les militants syndicaux, les secteurs cheminots et les secteurs du métro appellent à des grèves reconductibles à partir du 7 mars. Donc, à partir du 7 mars, on peut penser que le mouvement va continuer et se durcir si le gouvernement continue dans sa politique.
Wow. Ça, c'est chose intéressante. Peut-être faire le suivi des entrevues avec toi après le 7 mars.
Wow. Voilà.
Merci beaucoup toujours, Sylvain, pour les entrevues aujourd'hui.
Merci à vous aussi.
Et poursuivre le syndicat solidaire, le site web, le Facebook et tout ça, parce que c'est un modèle de syndicat vraiment intéressé pour nous ici au Québec.
D'accord. Bon, à très bientôt et encore merci à toi.
Welcome back to Labor Radio here on CKUT 90.3 FM. We were just listening to our interview with Sylvain Allies from the Progressive Trade Union Solidaire in France on the strike wave over pensions, but also the historic attacks on the pension regime in France by successive governments.
So thanks again for listening to us. Make sure you tune in generally to CKUT, but catch us every third Thursday of the month from 5 to 6 p.m. 90.3 FM here in Montreal, CKUT.ca, Labor Radio Podcast Network. You can find our show on Facebook and on Mixcloud. Thanks so much for listening.
There's a lot going on in the world today. See how it affects Montreal's Black and Caribbean community. Read the Community Contact. News, features, opinions, music reviews, cultural events, and so much more. Our voices, our perspectives, our community. Published every 2 weeks, pick it up at your favorite community spot or visit us online at our new and dynamic website, mtlcommunitycontact.com. Easy to navigate and lots to enjoy. Archived issues also on the site and available on the web. That's mtlcommunitycontact.com. Stay in contact.
TD and Production Nuit d'Afrique present from February 3rd to 25th, African music in all its splendor.
With six special concerts for Black History Month. Don't miss the fascinating Brazilian singer Fabiana Coza and her guest, the talented kora player Sal Sissoko. A meeting of the blues with the powerful voices of Jelly Tapa and Don Tyler Watson. The Afropop of Sheikh Ibrahim. And the soul creole sounds of Zanaya.
Discover the complete program on productionnuitdafrique.com.
Diagnosed with a psychotic disorder, I used to see things that weren't there. Today, with a little help, I'm doing better. But sometimes, I still have visions. I see myself traveling. I see myself finishing my studies. I see myself having kids. Disorders detected early enough won't stop you from living your life. To get help, call Info Social 811 or talk to a doctor.
A message from the Gouvernement du Québec.
One Stop Caribbean Cuisine is the place to be. The best tasting food, West Indian food. Check it out. 334 St. Jacques Street. The one and only. Chef X. And the best. Everyone calling up his name, talking about him. All type of food ready right there. Fish, vegetable, oxtail, curry goat, jerk chicken. That's CM tasting Caribbean food.
Thank you. Good evening. It's 6 o'clock. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca. The show about theater on the radio, from drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between. Professional student and community productions in and around Montreal, the island also known as Jojage and Ganyagaha and Munyang in Anishinaabe, where we spell theater with an R-E at the end. I'm your host, Sarah De, joining you live from the CKUT studios on Thursday, February 16th, 2023. On tonight's show, esteemed Montreal writer Steve Galluccio is ready to present his latest play, At the Beginning of Time, a picture of Montreal's queer community in the 1970s, an ode to love, and a chance to reminisce. He'll be my first guest this hour. Acrobat and circus creator François Bouvier invites you to take an experimental look at the body and human experience. He likes bridging different spaces and technologies, and he'll be doing that at La Chapelle next week. As well, McGill Opera is back with a deep dive into the collaborations of legendary musical theater giants Candor and Ebb. If you haven't heard of them before, you've definitely heard their music. We'll find out more with the director of Round the World before the end of the hour. Reminder that you can follow us for updates, images of guests, and more on Instagram at UpstageCKUT. And as well, we have a really cool new website out, ckut.ca, where you can listen back to past interviews like last week's chat with Sandra Laronde, who is the founder of Red Sky Performance, her show Migas, the Water Pound.